VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité. Aux États-Unis, convention républicaine de Cleveland dans l'Ohio. Aujourd'hui est la dernière journée de la réunion qui sera clôturée dans la soirée par un discours final du milliardaire Donald Trump, formellement investi comme candidat à la Maison-Blanche. Retrouvons à Cleveland l'un de nos envoyés spéciaux à la convention, Nicolas Pineau.
Oui, le candidat républicain qui va s'exprimer ici depuis la Quicken Loans Arena de Cleveland. On attend beaucoup de ce discours. Avant de l'entendre, il sera introduit par sa fille, Ivanka. On sait qu'il est très proche d'elle et qu'elle est très présente, notamment au sein de sa cellule de communication. Alors évidemment, dans ce discours, il y aura certainement des attaques contre Hillary Clinton, comme depuis le début de cette campagne. Mais ici, beaucoup attendent de la substance, des idées. Donald Trump veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Comment veut-il s'y prendre? Combien cela va-t-il coûter? Il faudra donner des réponses devant les délégués de la convention. On suivra ça, évidemment, sur VOA Afrique.
Hier, Donald Trump a subi un revers politique et un véritable affront à la convention lorsque son ancien rival Ted Cruz a refusé de lui apporter son soutien. La soirée avait pourtant bien commencé pour le milliardaire avec le discours de son colistier pour la vice-présidence, le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Le reportage de notre autre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Seloudia.
I accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States of America.
Le gouverneur de l'Indiana a commencé par parler de ses humbles origines et des vertus que lui ont inculquées ses parents, le travail, la foi et la famille. Il a souligné qu'il est d'abord chrétien et père de famille avant toute autre chose. Ses héros, pendant qu'il grandissait, étaient, a-t-il déclaré, l'ancien président démocrate John Kennedy et Martin Luther King Jr., le leader du mouvement des droits civiques. Mais il a bien montré qu'il restait profondément enraciné dans les valeurs conservatrices chères au héros des républicains, l'ancien président Ronald Reagan.
Indiana is a state that works because conservative principles work every time you put them into practice.
Selon le colistier de Donald Trump, les principes conservateurs marchent chaque fois qu'on les met en pratique. Il a dénoncé la gestion économique et budgétaire de Barack Obama, soulignant que l'élection de Hillary Clinton, la candidate démocrate, ne serait qu'un troisième mandat du président sortant. Mike Pence s'est ensuite évertué à vanter les qualités de Trump qui permettront de restituer, a-t-il dit, à l'Amérique sa grandeur, ici même aux États-Unis et à l'étranger. À la différence d'Obama et de Clinton, Donald Trump sera un président fort et résolu. Mais son discours a été éclipsé par le refus public de Ted Cruz d'appuyer la candidature de Donald Trump. Il a été conspué par les délégués de New York et le mouvement s'est étendu à toute la salle pour avoir demandé aux électeurs républicains de voter leur conscience.
If you love our country and love your children as much as I know that you do, stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down the ticket.
Clairement, pas une consigne de vote pour Trump, pas un soutien au candidat républicain dans sa propre convention d'investiture. Idrissa Seloudia, Cleveland, dans l'Ohio.
Afrique maintenant, le Rwanda poursuit sa politique de détention arbitraire des enfants des rues, indigents et vendeurs à la sauvette dans des centres de transit répartis dans le pays et où les mauvais traitements sont monnaie courante, a dénoncé aujourd'hui Human Rights Watch. L'ONG américaine de défense des droits humains souligne dans son rapport que l'arrestation des personnes pauvres s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale officieuse visant à dissimuler la présence de personnes indésirable et tranche avec les efforts importants du gouvernement rwandais pour réduire la pauvreté. En Angola, le Parlement angolais a adopté mercredi une loi d'amnistie pour les personnes condamnées à des peines maximales de 12 ans de prison pour des délits non violents. Un texte qui devrait s'appliquer aux 17 opposants assignés à résidence. Le point avec Nani Talani.
La loi proposée par le gouvernement accorde le pardon pour tous les crimes passibles d'emprisonnement jusqu'à 12 ans, a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueiras. Cependant, sont exclus de cette amnistie les crimes violents, les délits sexuels, le trafic de stupéfiants la traite des personnes et des organes humains. Quelques 8 000 personnes devraient bénéficier de cette loi. Selon Zenaida Machado de Human Rights Watch, les 17 opposants condamnés en mars à des peines de prison pour tentative de rébellion qui ont été libérés en juin et assignés à résidence devrait en principe en bénéficier. La militante des droits de l'homme veut que le gouvernement abandonne les charges contre eux ou qu'un tribunal les acquitte car ils n'ont commis aucun crime.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, l'état d'urgence ayant expiré la semaine dernière et réinstauré à compter d'aujourd'hui en raison de l'attaque au cours de laquelle 17 soldats ont été tués à Nampala dans le centre du pays. Un deuil national de 3 jours a également été proclamé après cette attaque meurtrière, la dernière en date d'une longue série dans le secteur. Nampala est une ville de la région de Ségou, à plus de 510 km de Bamako et proche de la Mauritanie. Elle abrite le deuxième camp militaire le plus important de la région, après celui de Ségou, la capitale régionale. Un camp qui a été attaqué tôt mardi matin par des hommes armés. D'après Ousmane Cornio, expert malien en gestion de conflits, l'attaque de Nampala est révélatrice des failles profondes dans le système sécuritaire de Bamako.
Tout le monde regrette que cette attaque ait lieu parce que tout le monde connaît la vulnérabilité et la fragilité de ce point. Il y a une première attaque et une deuxième attaque. Et dans cette zone, pas plus tard qu'au mois de mars-avril, il y a eu 5 casques bleus qui ont été tués non loin de cette zone. C'est aussi dans cette zone qu'il y a eu le conflit entre les Peuls et les Bambara où il y a eu une trentaine de morts. C'est suffisamment révélateur pour qu'on puisse prendre au sérieux la problématique de la sécurité dans cette zone et mettre les moyens qu'il faut. C'est vraiment une déception aussi bien au niveau de l'État que des forces de sécurité et de la population.
Ousmane Cornio, expert en gestion de conflits à Bamako, au Mali. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de suspendre les activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire. Cette suspension intervient à la suite des violences sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lundi dernier. John Lindon s'est entretenu avec Daniel Nincemont, président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire.
La suspension des syndicats intervient après les différents événements survenus sur le campus universitaire de Cocody, suite à une vague de revendications qui a entraîné les casses de plusieurs véhicules, des destructions de biens publics et aussi nous avons des actes de vandalisme puisqu'il y a du matériel qui a été notamment dérobé pendant cette vague de revendications.
Les tensions entre la police, le gouvernement et les étudiants durent quand même depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a une porte de sortie des crises, à votre avis?
Oui, il y a une porte de sortie des crises. Je pense que celle qui serait la mieux utilisée et la plus idoine est la porte de négociation et de dialogue. Un ensemble de structures d'organisations étudiantines avait déjà entrepris des démarches pacifiques en vue de trouver des solutions et là qu'est intervenue cette vague de violence orchestrée par un certain nombre de syndicats.
Maintenant que les syndicats d'étudiants sont suspendus, qui est-ce qui va discuter avec les autorités?
Nous avons déjà des organisations bien structurées qui sont à même de pouvoir poser les problèmes réels sur les tables de négociation avec un certain nombre de procédés plus ou moins recommandés qui peuvent amener un certain nombre d'accalmie, surtout de l'apaisement.
Daniel Nincemont, président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire. Et puis au Nigeria, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation humanitaire massive dans l'état de Borno. On écoute Isabelle Defouni, directrice des opérations de MSF.
Dans les villes de Bama, par exemple, il y a environ 10 à 15 000 personnes qui vivent dans le campement d'un hôpital, donc dans un périmètre de 400 mètres sur 400 mètres, donc dans des espaces très restreints. Peu de nourriture arrive dans ces sites, l'accès aux soins est inexistant et les habitations sont aussi extrêmement précaires. La ville a été complètement détruite et donc les gens se sont fabriqués des petites cabanes avec des tôles. Il n'y a pas de latrine non plus par exemple et un accès à l'eau qui est insuffisant. Alors aujourd'hui ce qu'il faut de toute urgence c'est mobiliser l'aide internationale, surtout pour qu'il y ait des distributions de nourriture qui se mettent en place rapidement. Il y en a déjà des acteurs comme le CIFR, le Croissant Rouge Nigérian ou un organisme d'urgence étatique qui ont commencé des distributions de nourriture, mais c'est totalement insuffisant.
Isabelle Defouni de MSF.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.